Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Steve Rivière. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Dieu est présent dans ce lieu ce matin. Et c'est toujours un honneur, un privilège, frères et sœurs, une joie vraiment profonde de vous partager la parole de Dieu. Sa parole est si riche, sa parole est si glorieuse, sa parole est si merveilleuse. Et ce matin, j'ai vraiment ce privilège de vous partager ce message sur les pères. Et de moi-même, je ne suis pas digne ou capable de le faire, mais par sa grâce, par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous rend capables et c'est lui qui nous rend dignes. Et je prie que ce matin, vous puissiez tous recevoir ce que Dieu a à nous dire au travers de sa parole. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fils prodigue? Qui a déjà entendu parler? Quasiment tout le monde. Donc, vous savez, l'histoire du fils prodigue, c'est ce fils dans la parole de Dieu, dans Luc 15, qui dilapide les biens de son père et va avec les prostituées, dilapide tout. Et on connaît cette parabole sous le thème « Le fils prodigue ». Mais ce matin, j'aimerais vous partager moi un message qui s'intitule « Le père prodigue ». Un peu différent. Il s'intitule « Le père prodigue ». Vous savez, je commençais à méditer, à chercher la face de Dieu pour vous ce matin. Et je me suis rendu compte que on a déformé un petit peu le mot prodigue. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot prodigue? Le mot prodigue signifie pas être perdu ou signifie pas mal faire. Ça signifie donner sans compter. Exact, Alain. Ça signifie quelqu'un qui, en fin de compte, il compte pas ce qu'il a, il dilapide, il donne, il est prodigue. Et donc, on a tendance à penser la parabole du fils prodigue en pensant que c'est le fils qui a péché et qui s'est perdu. Mais vous savez, Jésus ne parle pas dans les Écritures de cette parabole en disant c'est la parabole du fils prodigue. C'est jamais écrit ça dans la parole de Dieu. C'est dans notre mentalité à nous, qu'on pense fils prodigue, on voit c'est quelle histoire. Mais Jésus ne parle pas de la parabole du fils prodigue en réalité dans les Écritures, dans Luc 15. Il parle de la parabole d'un père qui avait deux fils. Voilà quel est le titre de la parabole de Jésus. La parabole d'un père qui avait deux fils. Et nous, on prend souvent cette parabole comme la parabole du fils prodigue. Mais ça a été construit dans l'opinion de l'église d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas écrit ça dans les Écritures. Le mot prodigue n'y est même pas. Donc, le mot prodigue signifie donner sans compter. Mais comme dans notre façon de penser, on pense souvent à prodigue comme l'enfant qui a été perdu, on va garder entre guillemets cette perception des choses en pensant au père qui a été perdu par l'humanité. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message, le père prodigue. Parce que nous sommes dans le cadre de la fête des pères et l'humanité a dès l'origine perdu son père, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, Dieu le Père. Et l'humanité est devenue prodigue dans le sens, elle s'est perdue, même si ce n'est pas le véritable sens de ce mot. Donc à l'origine, le plan de Dieu a toujours été d'être un père pour les hommes. Est-ce que Dieu est un humain? Dieu le Père. Non, Dieu est esprit. Ce n'est pas un humain avec une grande barbe assis dans la galaxie sous des milliers d'étoiles. Ce n'est pas ça. Il a créé une créature qu'il a appelée humain et il a désiré, lui, le Dieu de tout, nous disent les Écritures. Il a souhaité être leur père. Il a créé cette créature pour former une famille et être leur père. Et dans le jardin, Dieu, c'était son plan depuis l'origine. Depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il venait les voir dans la brise du soir, nous disent les Écritures, pour discuter avec eux, pour parler avec eux, pour être leur père, pour être dans leur présence et qu'eux soient dans sa présence. C'était magnifique. Mais comme vous le savez, Adam et Ève, à cause de leur erreur, a perdu Dieu, a été coupé de sa présence. Et l'humanité est devenue orpheline, si on peut dire, sans père. Et ensuite, donc, quand Adam et Ève ont fait cette erreur, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et Dieu n'a cessé, au cours du temps, à nouveau de se révéler, parfois un homme, parfois des hommes, parfois une famille, parfois une nation, pour revenir au plan originel. Et c'est ça qui est important. Parce que l'humanité l'avait perdu. Mais Dieu, lui, ne voulait pas laisser l'homme sans père. Et donc, dans son plan bienveillant, il a commencé, au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, à choisir des hommes pour se révéler. Il s'est révélé à Abraham, à Moïse, il s'est révélé à des prophètes. Et à chaque fois, il donnait une image, une identité de qui il était vraiment, jusqu'à Jésus-Christ. Et là, il redonne l'identité originale. Jésus est celui qui est venu révéler Dieu comme Père. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Jésus parlait toujours de son Père. C'est lui qui est venu révéler Dieu comme étant le Père que l'humanité avait perdu. Il est venu ramener le Père dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est crucial pour nous. Jésus est venu nous montrer que Dieu, son plan d'origine est à nouveau accessible. Il voulait une famille. Il voulait être le père d'une famille nombreuse. Et c'est le cœur du Seigneur pour chacun d'entre nous. Selon une étude biblique, Dieu est nommé en tant que père 4 fois dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il y a plusieurs fois on entend le nom père, mais que 4 fois le nom père est utilisé pour Dieu dans l'Ancien Testament. Et 249 fois dans le Nouveau. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mathématiques pour comprendre que là, il y a eu depuis l'arrivée de Jésus-Christ un shift dans la perception de qui est Dieu. Une, si vous préférez, une transition dans la perception de qui est Dieu. Car Jésus est venu révéler Dieu en tant que Père. Dieu le Père. Mais en méditant là-dessus ce matin, je réfléchissais et je me suis dit, waouh, Dieu, Père Saint, qu'est-ce que j'aime t'appeler Père. Je suis content de l'appeler Père. Et je remercie le Seigneur Jésus de dire, waouh, Seigneur, tu es mon Père. Et en réfléchissant à sa bonté en tant que Père pour nous, je pensais à ce qu'il a fait, lui, le Père parfait, le Père des Lumières, le Père Céleste, comme dit les Écritures. Il a créé, lui, la perfection, un homme, une femme, Adam et Ève. Et eux, ils étaient sans péché et ils ont dérapé. Aïe, aïe, aïe. Et là, je me suis mis à penser à nous, Père. Pécheurs, pas parfaits encore, qui sommes responsables d'une famille. Et qui parfois connaît des dérapages incontrôlés vraiment aussi. Je me suis dit, si le Dieu parfait qui a créé un couple, 2 êtres sans péché, ça a dérapé. Je me suis dit, oh Seigneur, je sais que tu nous comprends quand nous on dérape. Mais Dieu est bon et Dieu est souverain. Il avait prévu l'arrivée d'un fils qui ne déraperait pas. Le second Adam, Jésus-Christ, qui permettrait de révéler à l'humanité le Père qu'il est. Et que lui, il n'allait pas déraper. Et il allait être un modèle, un standard pour tous ceux qui allaient venir après lui, afin qu'on puisse connaître le Père tel qu'il est vraiment. Parce que la Bible dit qu'il est l'expression, l'image parfaite de Dieu. Et en pensant à ça, en méditant, en disant, Seigneur, c'est vrai que en créant Adam et Ève, est-ce que vous savez qu'Adam et Ève a péché, mais avant qu'ils pêchent, ils étaient sans péché. Donc ils n'avaient pas de nature pécheresse avant de pécher. Mais ils ont péché. Et si vous voulez savoir pourquoi, venez à l'école biblique. Et là, je me suis mis à méditer sur nous en tant que père et aujourd'hui, moi-même en tant que père de trois enfants, j'ai vu qu'Adam et Ève a dérapé. Et je me suis dit, Seigneur, tu avais prévu comme une solution Jésus-Christ. Et là, tu manifestes au travers de ton plan combien tu es un père bon. Parce que moi, en tant que père, j'ai souvent dérapé dans l'éducation de mes enfants. Et je crois qu'ici, dans ce lieu, lorsque j'ai prié, il y a beaucoup de pères qui s'en veulent parce qu'ils ont aussi beaucoup dérapé dans l'éducation de leurs enfants. Et nous ne sommes pas parfaits comme Dieu le Père. Et Dieu le Père, lui, il a fait des êtres sans péché qui ont dérapé avant que Christ arrive. Nous sommes des êtres faits à son image, mais pécheurs aujourd'hui. Et j'aimerais ici vous poser une question au papa. Quel papa dans ce lieu peut dire que lui n'a jamais rien raté dans l'éducation de ses enfants? Quel papa dans ce lieu ne regrette pas certaines paroles, certains comportements, certains moments? Quel papa dans ce lieu n'aimerait pas effacer certains événements? Si vous faites partie de ces papas qui ont dérapé, levez la main. Levez bien haut la main de ces papas qui ont dérapé, sans aucune honte et aucune gêne. Eh bien, j'ai un message d'encouragement pour vous ce matin. Parce que Dieu veut encourager les merveilleux pères que vous êtes. Nous puissions comprendre que, oui, nous ne sommes pas parfaits, nous avons dérapé. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il a créé une création qui n'avait point de péché, elle a dérapé. Il a fallu que lui vienne nous montrer le chemin pour que nous puissions être attrapés et rachetés. Et en pensant à vous, en priant pour vous, je me suis dit, mais je pense à ces papas, comme moi ça m'est arrivé d'avoir un comportement excessif, irrité après une journée de travail ou avec un enfant qui demande quelque chose gentiment et tu es excessif dans ce que tu fais. Combien d'erreurs j'ai fait comme ça? Et si on est honnête envers nous-mêmes et avec Dieu, waouh, je pensais à tous les papas. Moi, j'ai un papa extraordinaire qui a su réellement manifester le cœur de Dieu. Mais aucun papa sur terre n'a commis aucune erreur, malheureusement. Moi, le premier. Mais ceci n'est pas grave, malgré tout. Parce qu'en Christ, nous pouvons être rachetés. En Christ, nous ne sommes pas seuls. La bonne nouvelle parmi plein d'autres que j'ai pour toi ce matin, c'est qu'aujourd'hui en tant que papa, vous n'êtes pas seul à prendre soin de vos familles. Et il serait bien d'avoir les amen des papas là. Papa, vous n'êtes pas seul. Papa, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec toi. Même quand tu dérapes. Et ça, c'est bon de le savoir. Savez que avant d'être un bon père, il faut être un bon fils. Ça, c'est important. Vous allez me dire oui, mais peut-être que certains vont me dire oui, mais il y a eu des événements dans ma vie où j'ai pas eu le papa, j'ai pas connu mon père, où mon papa était vraiment à l'ouest. Je peux comprendre tout ça. Et chaque situation est différente. Mais là, je vous encourage à comprendre que malgré les erreurs de votre père, nous, en tant que père, on fait des erreurs. En tant que fils, on a fait des erreurs. Et quels que soient nos dérapages, Dieu nous pardonne. Si on est juste et bon pour lui demander pardon. Et il est là pour nous montrer comment faire maintenant. Et il nous dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi et je vais te montrer comment faire. Et ça, c'est une extraordinaire nouvelle. Ça, c'est extrêmement puissant. Si tu as un papa, dis après moi, dis je peux changer les choses par la puissance de Christ. Je sens beaucoup de condamnation dans ce lieu, parce que certains n'arrivent pas à dire ça, vous en voulez gravement. Et le cœur de Dieu ce matin est de vous faire comprendre que malgré vos manquements, malgré vos erreurs, il vous pardonne. Ça vient Philippiens 3, verset 13, dit ceci. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi en parlant de Dieu, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et j'aimerais vous encourager, papa, ce matin, vous dire que Dieu le Père est fier de vous et que cette parole, vous n'êtes pas seul, la parole de Dieu, que cet homme écrit ici, c'est l'apôtre Paul, qui écrit à l'église de Philippe, et il dit, frère, oubliant ce qui est en arrière, je cours, je regarde pas ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Et j'aimerais encourager tous les papas dans ce lieu ce matin, pour vous dire, arrêtez de regarder en arrière, arrêtez de regarder à vos manquements, arrêtez de regarder à tout ce que vous faites de mauvais, de pas bien. Sinon, vous allez toujours avoir une mauvaise image de vous. Et si vous avez une mauvaise image de vous, comment allez-vous donner une bonne image à vos enfants? En Christ, il nous a rachetés. Il est capable de changer notre présent. Et on doit regarder à ce qui est en avant. Et oublier ce qui est en arrière. L'apôtre Paul qui écrit ça était un meurtrier. Il a tué beaucoup de chrétiens. Imaginez maintenant lui en tant qu'apôtre chrétien, enfant de Dieu, aller dans les églises. Et peut-être quand il écrivait ça, il y avait peut-être des membres dans les églises où il avait fait tuer les papas. Peut-être lorsqu'il prêchait, il y avait des familles qui étaient orphelines à cause de lui. Est-ce que vous pensez que ça c'est un dérapage? Est-ce que vous pensez que ça c'est une erreur? Oui, hein, pas de piège. Oui, ça c'est une grave erreur. Il donnait son consentement et il allait chercher les chrétiens dans les familles pour qu'ils reniaient Jésus. Ce gars-là, avant de devenir un chrétien, était dangereux pour l'église. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Parce qu'il n'aurait pas pu servir le Seigneur et devenir ce qu'il est devenu si son regard portait toujours sur ses actions coupables du passé. Et c'est le message que Dieu a pour les papas ce matin. Tu as pu faire des erreurs comme moi-même. Mais Dieu veut nous encourager et nous dire, arrête de regarder en arrière. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Porte-toi vers ce qui est en avant. Adam s'empêchait à déraper. Paul a plus que dérapé. Lui, il est vraiment parti dans un fossé. Et il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Alors je veux encourager les papas ce matin pour vous dire, portez-vous vers ce qui est devant. Portez-vous vers ce qui est devant. Tu as peut-être été un papa violent par le passé. Tu as peut-être été un mari indigne ou un papa indigne dans le passé. Mais sache que Jésus veut te pardonner. Si toi tu es prêt toi-même à te pardonner, si toi tu es prêt à le faire confiance, si toi tu es prêt à dire comme l'apôtre Paul, oubliant ce qui est derrière, je me porte vers ce qui est en avant. Quel papa a envie de se porter vers ce qui est en avant ce matin? Levez bien haut la main. Quel papa comprend le message de Dieu pour son cœur? Amen. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. J'imagine Paul, qu'il écrit ça, il est libéré de la culpabilité. Il n'a plus peur d'échouer. Il sait qu'il a tellement été à côté de la plaque avant Jésus qu'aujourd'hui, il dit, oh, je me porte vers ce qu'il y a en avant. Et même si j'ai fait des erreurs en tant que chrétien, je continue constamment à me porter vers ce qui est en avant. C'est ce que Dieu veut pour nous les papas. Pourquoi? Parce que être père, ça s'apprend. On ne naît pas père, on le devient. Ce n'est pas parce que tu es un papa que tu es un père. Le papa est un géniteur. Il y a des jeunes qui deviennent papa par accident, mais ce ne sont pas des pères. Il y a des pères qui sont malheureusement tellement à l'ouest que ce sont des papas et pas des pères. Être père, c'est différent. Être père, ça s'apprend. Et malheureusement, il n'y a pas d'école. Le modèle premier, c'est dans nos familles. Et ensuite, c'est l'église qui est la famille de Dieu. Donc papa, Vous n'avez jamais eu de mode d'emploi sur comment faire pour être un papa, pour être un père. C'est pour ça que je tiens à vous dire qu'être un papa ne signifie pas forcément être un père. Mais si vous comprenez le message du cœur de Dieu ce matin, qui nous dit à nous, papa, oublie ce qui est derrière et porte-toi vers ce qui est devant. Regarde au Fils Christ Jésus, qui est appelé le Père éternel, le modèle, qui manifeste le cœur de Dieu, qui est l'image du Père céleste. Porte-toi vers ce qui est devant. Et regarde comment on peut devenir un Père en imitant Jésus, en imitant Dieu. Il n'y a rien de mieux que d'avoir aujourd'hui en nous l'Esprit du Père pour que nous puissions apprendre à devenir un Père. Car aujourd'hui, nous ne sommes plus des fils prodigues. Et aujourd'hui, le Père n'est plus prodigue aussi pour nous. Nous sommes rachetés. Il nous a retrouvés. On est capable de le connaître. On est capable de changer. Et on est capable de dire comme l'apôtre Paul, « Oh, j'oublie ce qui est derrière et je regarde ce qui est devant. » Tous les dérapages que j'ai pu faire à mes propres enfants, « Oh, je sais maintenant que tu es avec moi, que je ne suis pas seul. » Peut-être que tu as été violent. Peut-être que tu as dit des mauvaises paroles. Peut-être que tu as négligé ta famille. Peut-être que tu as négligé ton rôle de papa. Peut-être que tu n'as pas su refléter le cœur de Dieu. Mais sache qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Oublie ce qui est derrière. Et porte-toi vers ce qui est en avant. On devient papa. On ne naît pas papa. Éphésiens 5, verset 1 nous dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Oh là là. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Il parle à nous, ses enfants, l'Église, et dit, deviens un imitateur de Dieu le Père. On peut l'imiter avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui. Le mot imiter signifie mime. Mime, sois un perroquet. Répète ce que tu vois ton Père faire. Éphésiens 5, verset 1, la version du message traduite ici nous dit, observe ce que Dieu fait et puis fais-le. Comme un enfant qui apprend des comportements de ses parents, fais tout pour rester en sa compagnie et apprendre à vivre une vie conduite par l'amour. Conduite par l'amour. Version Le Message. C'est une version anglaise, on me traduit ici. Mais j'aime ce qu'il dit. Observe ce que Dieu fait. Puis fais-le comme un enfant qui apprend du comportement de ses parents. Waouh! On peut imiter Dieu. Il n'y a pas de père parfait. Donc si tu as eu un père difficile ou que tu n'as pas connu, pardonne-le pour ses erreurs. Mais sois un fils ou une fille qui comprend qu'il y a un père parfait dans le ciel, qui nous aime d'une façon inconditionnelle et qui a envoyé son fils Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Et qui désire nous dire, il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Deviens un imitateur. Je sens la douleur de certains ici qui n'ont pas eu le papa que vous désirez, ou qui n'ont même pas connu le papa, ou vos familles, vos parents sont divorcés, vous êtes là, vous entendez ce message, et votre cœur est rempli de douleur, et vous dites, mais pasteur, tu ne comprends pas. Mais Dieu comprend. Dieu comprend. Et ce n'est pas irrécupérable. Ce n'est pas parce que peut-être que tu as eu un mauvais papa que tu seras mauvais. Ce n'est pas parce que tu n'as pas connu son papa que tu ne peux pas être un bon papa. oubliant ce qui est en arrière, portant vers ce qui est en avant. Regarde à Jésus qui est appelé dans Isaïe le Père éternel. Le Fils est appelé le Père éternel, l'admirable, le sublime. Donc on va voir rapidement ce matin quelques principes prioritaires, les principaux principes pour devenir un père selon le cœur de Dieu. Est-ce que les papas ont envie de devenir un père selon le cœur de Dieu dans ce lieu? Levez la main, sans aucune gêne, aucune honte. Si tu veux devenir un père selon le cœur de Dieu. Amen. Si ta femme est enceinte, tu es marié, tu es déjà un père, même si c'est ton premier enfant qui arrive. Premièrement, il nous faut faire attention de ne pas remplacer le rôle du Père céleste. Oh, ça, c'est crucial. Très, très crucial. Matthieu 23, verset 9, nous dit ceci. Jésus parle et il dit, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Oh ! Jésus dit, « N'appelle personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Ma question pour vous, c'est pourquoi avons-nous appelé cette fête la fête des Pères ? Oh ! Oh ! Et j'aimerais casser un peu la religion ce matin. Avant, je pensais comme ça, parce qu'au départ, j'étais vraiment un peu trop religieux, vraiment, beaucoup. Et je savais qu'il fallait appeler quelqu'un un père. Je dis non, je n'appellerai pas père parce que Jésus dit un seul est votre père. Donc si tu es catholique et tu entends ce verset, tu ne dis pas mon père au curé, tu dis monsieur le curé. Mais quand Jésus dit ça, il faut comprendre le contexte. Il parle ici, le Matthieu 23, c'est un chapitre qui tape, coup de tapin, coup de calotte, des claques. À l'esprit religieux. Et Jésus bombarde la religion. Parce que les pharisiens critiquent, murmurent, les prêtres de l'époque, ils critiquent Jésus. Et Jésus, à chaque fois, dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que tant. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que tiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Il bombarde tout le chapitre. Et là, dans ce contexte de ce chapitre, il dit, n'appelez personne père. Je vous signale que ça ne signifie pas qu'il ne faut pas appeler quelqu'un père sur terre ou dire, oh, on ne dit pas la fête des pères, parce que Jésus a dit, on n'appelle personne père, on dit la fête des papas. Là, ce serait être religieux. Quand Jésus dit ça dans le contexte, le problème des pharisiens, c'est qu'ils avaient remplacé Dieu le Père. La religion était devenue la source, si vous préférez. Les gens n'arrivaient plus à se connecter, le peuple n'arrivait plus à se connecter à Dieu le Père, parce que les religieux, les pharisiens faisaient écran. Ils mettaient un mur entre Dieu le Père et eux. Donc Jésus les bombarde et Jésus les réprimande et Jésus leur dit, n'appelez personne sur la terre Père. Parce que les pharisiens aimaient se faire appeler Père. Ils aimaient être au centre des choses et être crus comme étant la source et à l'origine de tout. Donc Jésus les prend au mot et dit, n'appelez personne Père. Vous avez un seul Père, une seule source. Il faisait écran. Et pour ceux qui d'entre vous douteraient encore, j'aimerais vous dire que Jésus lui-même a appelé les papas terrestres Père, pour vous rassurer. Jésus lui-même a appelé les papas terrestres Père. Donc c'est bien important de comprendre cela. Il dit, par exemple, tu honoreras ton père et ta mère. Donc lui-même, il appelle les papas Père. Il le dit. Il l'appelle dans la parole de Dieu, les Écritures parlent de tel fils en étant fils de son père. Donc soyez rassurés, Dieu lui-même utilise le mot père pour décrire des pères terrestres. Vous voyez qu'on peut l'utiliser. On peut appeler la fête des pères. Mais là, le sens, la signification dont Dieu parle, c'est ça. C'est que le Père céleste, c'est la source. Il est à l'origine de tout. Et les pharisiens, ils mettaient un mur. Ils remplaçaient le rôle de Dieu le Père. Et là, c'est pas bon. Ils mettaient une barrière. Et souvent dans les Écritures, Jésus parle de cela. Il voulait, il disait aux pharisiens, à un autre passage, il dit aux pharisiens, vous prenez tout ce que vous avez, vous dites que c'est réservé à Dieu, et vous honorez pas vos pères. Dieu parle des pères. Dans l'Ancien Testament, il dit à cause de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père Isaac, le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Jacob. Donc Dieu lui-même utilise le mot père. Vous savez, si on prend la Bible à la lettre, on devient extrêmement religieux. Parce que parfois, il semble que Dieu dit une chose, et après, il semble que la chose est donnée d'une façon différente. Non, c'est l'Esprit qui donne la vie. Mais la lettre, tu, il faut la prendre avec son sens spirituel. Et donc, c'est comme si Dieu dit, écoute, apprends, lorsque tu éduques tes enfants, à ne pas remplacer Dieu le Père, tu dois le représenter, mais fais tout pour que la confiance de tes enfants soit dans le roc qu'est Dieu le Père, plus qu'en toi. Parce que oui, toi tu es imparfait, oui moi je suis imparfait, mais Dieu le Père est parfait. C'est-à-dire, fais tout dans l'éducation de tes enfants pour le connecter à la source. Je vais prendre un exemple très simple qui, moi, m'arrive parfois, malheureusement, c'est qu'on vient, on prie, on dit, Seigneur, je te fais confiance pour mes enfants. Je te prie pour Nathan, je te prie pour Matisse. Oh, je te prie pour Matisse. Oh, je te prie pour ma précieuse petite Eva. Je prie. Et puis, quand il y a un souci qui arrive, je m'inquiète. Donc là, je fais écran. Parce que je ne fais pas confiance à Dieu le Père en disant, oh Père, ce que tu as fait en moi, tu vas le faire en eux. Oh Père, même si moi j'échoue, je ne porte pas mon regard vers ce qui est en arrière, mais je porte mon regard vers ce qui est en avant. Oui, je cours, je sais que tu me pardonnes et tu m'apprends. Et je veux t'imiter, et je suis transformé à ton image, et je deviens comme toi. Oh, j'ai confiance en toi. Oh, pardonne-moi lorsque je fais écran. Pardonne-moi lorsque je crois que c'est mon éducation. Pardonne-moi lorsque je crois que c'est ma propre sagesse qui va faire en sorte que, oh, ils vont bien être éduqués. Forget. Oublie. C'est Dieu le Père. Et nous, papa, on doit apprendre à lui passer le relais au bon moment, dans le bon timing. Et représenter Dieu. Et puis à un moment donné, on dit, ah, ce que je suis en train de faire écran. On n'est pas capable, nous, de maîtriser les situations. On n'est pas capable même pas de nous contrôler nous-mêmes. Comment vous contrôlez notre famille? Il faut laisser Dieu le contrôle. Et pour ça, il faut que les pères se scotchent au Père Céleste. C'est ce que Dieu veut pour nous, car le Père Céleste, c'est la source. Mais nous, nous sommes les ressources. Le Père Céleste, c'est la source. Et nous, nous sommes les ressources, c'est-à-dire qu'on redirige les regards de l'enfant vers la source. Ne remplace pas la source, représente la source. C'est pas pareil. La limite parfois est fine. Nous devons, Père, être l'extension du travail que Dieu fait dans la vie de nos enfants. Et non pas une barrière. Nous devons, comprenez bien, je dis papa, mais je peux dire maman, je peux dire patron, être l'extension du travail que Dieu fait dans la vie de nos enfants. C'est notre mission. Et c'est possible. C'est possible. Les mamans répondent amen. Alors, quelles sont les fonctions principales d'un père pour imiter Dieu, pour le représenter? Comprenons bien ceci. Même si le père et la mère ont une éducation combinée, je dirais pas partagée, je préfère plutôt mixée, combinée dans l'éducation de leur enfant, il y a quand même des fonctions distinctes d'une part et d'autre. Et c'est important de peut-être mettre en évidence certains points qui concernent les pères. Alors le père, on a vu, c'est le père, il est à l'origine. Ça signifie que le père est celui qui donne l'identité. C'est pour ça que les familles portent le nom du père, en général. C'est pour ça que le père est celui qui donne le chromosome X ou Y. Garçon ou fille. Parce que le père a cette mission-là, au niveau de l'identité, il est à l'origine, il donne. Le père a pour mission de protéger. Le père a pour mission de pourvoir aux besoins de sa famille. Mais non seulement le père est à l'origine de l'identité, mais le père aussi transmet l'identité. Le père imprime l'identité. Et c'est important. Le père donc donne cette force aussi à l'enfant. Il renforce l'enfant. Pour les enfants, je me souviens quand moi j'étais petit, mon papa c'est le plus fort du monde. Bruce Lee pouvait pas venir à côté de lui. Mon papa, un coup de poing, t'écale un cyclone. Je rappelle sur l'autoroute, quand on montait la 4 voies, vieille voiture qui marche même pas, surtout une voiture, je disais à tous mes camarades, tu vois la voiture de mon papa, c'est un bolide. Putain, cette voiture-là, elle marche. Papa, c'est le plus fort. En grandissant, c'est l'image des enfants de leur père. Et puis, plus on devient conscient, plus on commence à voir les erreurs du père. Donc, il est important que le père passe le relais pour comprendre qu'il est imparfait, que le père céleste est parfait. Parce que tu te rends compte après que la voiture, c'est une vieille voiture qui ne marche même pas. C'est la voiture pour mettre des outils dedans. Donc le père imprime, non seulement il a l'origine de l'identité, mais il imprime l'identité. Il prend soin, il protège, il pourvoit, il renfort. La maman, on est confort, douce, cajole. La maman, vous savez, alors, elle aime, donc elle réconforte. Le père, il aime, donc il discipline. Les deux sont importants. Le père transmet son esprit. Le père transmet l'héritage. Le père transmet la bénédiction. Dans la parole de Dieu, c'est les pères qui imposent les mains. Et le symbole de l'imposition des mains, c'est je te bénis mon fils. Je te donne l'héritage mon fils. Je te bénis. Ce que moi j'ai, je te le donne. Le père transmet l'héritage. Le père transmet la bénédiction. Parce que le père transmet son esprit. Ça, c'est important. Écoutez bien ceci. Le père transmet donc la bénédiction, car la bénédiction doit être l'héritage qu'un père laisse à ses enfants. La bénédiction, je ne parle pas de finances uniquement. Je ne parle pas de loyer, de maison. C'est bien plus que ça, la bénédiction. Le père transmet la bénédiction, c'est sa mission. Mais sa bénédiction dépasse le cadre d'un héritage physique. C'est la mission des pères de laisser un héritage à leurs enfants, mais aussi à sa nation et aussi à sa société. Père, vous allez voir que votre rôle est primordial. Vous allez voir que votre rôle a beaucoup plus d'impact que vous le croyez. Malachie 3:5 nous dit, version Darby, si tu l'as, s'il te plaît. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, afin que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils. Et le cœur des fils vers les pères. De peur que je ne vienne frapper le pays de malédiction. C'est pas grave, c'est pas la version. Malachie 3, verset 5. Il dit ici, avant ce grand jour-là, l'esprit d'Élie, le prophète, va venir. Et il aura pour mission de ramener le cœur des pères vers le cœur des fils, et le cœur des fils vers le cœur des pères. Ça parle d'un ministère de réconciliation. Ça parle d'un ministère prophétique qui réconcilie, pas qui juge. Un ministère prophétique de la fin des temps qui aime, qui condamne pas, qui pardonne, qui restaure, qui édifie, qui construit. Et il dit que le cœur des pères va venir avec les fils et les fils vers les pères. Et dit, c'est alors que je ne frapperai pas le pays de malédiction. Oh là là. La conséquence pour les pères qui prennent leur rôle à cœur et qui comprennent qu'ils ont un héritage, une bénédiction à laisser avant de quitter cette terre. Ils ont compris la nécessité de l'héritage, l'impact qu'il doit avoir. Ils comprennent que leur rôle est majeur. Non seulement leur rôle est capable d'influencer et d'affecter leur famille, mais bien plus que ça, leur rôle est capable d'influencer et d'affecter une nation. Parce que ce que Dieu dit, pour ne pas que la malédiction vienne, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour que la bénédiction reste, il faut des pères. Et aujourd'hui, la société a tant de problèmes parce qu'il n'y a plus de père, il y a des lois. Beaucoup de jeunes manquent de père et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent à la rue, qui font n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas eu un père qui les a aimés avec la discipline. Moi, je bénis Dieu pour ça. Le mien m'a vraiment aimé avec la discipline. Je peux vous dire. Et c'est ce que Dieu veut. Quand les pères prennent leur place, ils attirent la bénédiction sur la nation. Quand les pères désirent ramener le cœur des fils, waouh! Dieu se réjouit. C'est ce qu'il attend de son église. Mais s'il manque des pères dans la nation, il ne faut pas qu'il manque de pères dans l'église. C'est pour ça que sur terre, aujourd'hui, l'église avec un grand E, Dieu est en train d'élever des pères. Il y a énormément de pères aujourd'hui qui reflètent le cœur de Dieu et qui impriment, qui impulsent, qui donnent les directives. Prenons l'exemple du pasteur Marc, qui est un père ici pour l'église d'Ozana, avec le pasteur Bruno. Il faut des pères qui transmettent l'identité. Imprime cela. Ce que Dieu veut. Donc considérons l'incroyable impact d'un père selon le cœur de Dieu. Je terminerai 5 minutes, s'il te plaît, là-dessus. Considérons, papa, l'impact qu'on peut avoir, pas uniquement sur nos familles, l'impact qu'on peut avoir à La Réunion, en France, si on réalise le potentiel que Dieu a mis en nous pour nos familles. C'est incroyable. C'est cet héritage-là qu'il faut laisser à nos familles. C'est cet héritage-là qu'il faut laisser à nos nations. Je pense par exemple à mon grand-père, un homme de prière extraordinaire, qui fait que la totalité de sa famille aime Dieu. Parce qu'il est tenu à la brèche. Dieu aime ça. Ça, c'est un héritage. Ça, c'est un héritage éternel. Ça vaut bien plus que toutes les maisons que tu peux avoir. C'est un héritage invisible. Gloire à Dieu si tu as les deux. La capacité d'avoir un impact éternel et intergénérationnel d'un père est incroyable. Je vais vous prendre 2 exemples très simples. L'exemple d'Abraham et l'exemple de David. Vous savez, je vous ai partagé ça, quelque temps de ça, dans une offrande, mais je vais le refaire là. Abraham, dans la Genèse, il apprend que Lot, son neveu, a été fait prisonnier par 5 rois. Et Abraham décide d'aller lui porter secours. Et il va avec ses bergers délivrer Lot. Il triomphe de 5 rois. Waouh! Et sur le champ de bataille, nous dit la parole de Dieu, il y a un homme qui se présente qui s'appelle Melchizedek. Ou Melchizedek. Qui représente cet homme comme un homme ayant ni commencement de jour ni fin. Dans le Nouveau Testament, il est dit que cet homme, c'est Christ Jésus. Et donc la Bible dit que cet homme, qui n'avait ni commencement ni fin, était Melchizedek. Et Abraham, au plein milieu du champ de bataille, a reconnu cet homme comme venant de Dieu et lui donne la dîme de son butin, le 10e de tout ce qu'il a récolté par rapport à la victoire qu'il a réussie. Et là, il y a ce qui est intéressant, c'est que cet acte qu'Abraham a fait en semant en Christ, puisque Melchizedek, c'est Christ, nous dit Hébreux, dans le Nouveau Testament. Cet acte qu'il a fait en semant en Christ était un acte qui a eu une répercussion éternelle et intergénérationnelle. La Bible dit dans Hébreux 7, au verset 9, « De plus, Lévi, qui reçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. » Waouh ! Lévi, c'est qui ? C'est le fils de Jacob. Jacob, c'est qui ? C'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est qui ? C'est le fils d'Abraham. Plus d'un siècle après, Lévi, qui était dans les reins d'Abraham, la Bible dit, quand Abraham a donné à Melchizedek, c'est comme si Lévi a donné au travers d'Abraham. Waouh! C'est incroyable. C'est magnifique. Abraham a été ainsi donc béni après par Melchizédek, et la bénédiction qu'il a reçue a une répercussion sur les enfants de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants, jusqu'à nous aujourd'hui. Les gars, gaillards, hein? C'est-à-dire que, écoutez bien ceci, écoutez bien ce que cela signifie. Je vous parle de bénédiction. Papa, tendez vos oreilles, je vous en prie. C'est-à-dire que certains de ses enfants ne vont pas être traités comme ils le méritent, même s'ils font n'importe quoi. Mais ils vont être traités comme Abraham le mérite. That's good. À cause d'Abraham. Plus d'un siècle plus tard, la victoire dans la foi que cet homme-là a eue a une répercussion intergénérationnelle. Pec à l'inette. Ça me motive, ça. Waouh! Waouh! Je me dis, c'est ça que je veux. Pour les enfants de mes enfants, 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 de mes enfants. Qu'ils puissent savoir un jour que leur arrière-grand-père s'est tenu à la brèche pour eux. Et que les victoires que je peux obtenir aujourd'hui en tant que père soient pour leur bénéfice. Et que comme Abraham, lorsque Dieu voit un de ses enfants, même s'il fait n'importe quoi, il se dit, mais à cause de mon serviteur Abraham, à cause de mon serviteur David, à cause de mon fils Jésus-Christ. Ouh! Lorsqu'un père obtient une victoire en Christ, non seulement sa famille, mais les générations à venir bénéficient de la bénédiction de cette victoire. La victoire personnelle d'un père peut être la victoire de toute une génération. Gars, je sais pas, mais moi je suis content. Moi je suis content. Ça, c'est un héritage. Le père transmet un héritage. L'exemple de David, on termine sur lui. Vous savez, je crois réellement que David était appelé un homme selon le cœur de Dieu, pas uniquement parce que c'était un adorateur. Entre autres, David était appelé un homme selon le cœur de Dieu parce que David a vécu pour la génération qu'il n'a jamais vue. Lorsqu'il désire construire un temple pour Dieu, Dieu lui dit, c'est pas toi, tu es un homme de guerre, ce sera ton fils, un homme de paix, Salomon, Shalom. Il faut que ce soit un homme de paix, qui sème dans la paix, pour construire mon temple. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas offensé, il a dit, Seigneur, je vais mettre tout mon pactole, pas pour l'État, pour la gloire de ton nom. Tout ce que j'ai, je vais me préparer. Tout ce que j'ai, je vais mettre de côté, pour mon fils. Tout ce que j'ai, je vais mettre de côté, pour que mon fils, lui, te construise un temple à ta gloire. Et Dieu aime ça. Et Dieu a aimé ça. Et Dieu dit à Salomon, lorsqu'il a été idolâtre, parce qu'il avait un peu trop de femmes, Dieu lui dit, ce que tu fais, je vais diviser le royaume. Mais je ne diviserai pas le royaume sous ton règne. Il sera divisé après toi, à cause de mon serviteur, David. Et quand on lit l'histoire d'Israël, un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, il y a des bons rois qui se lèvent et des mauvais rois. Il y a des bons rois qui plaisent à Dieu et des mauvais rois qui vraiment font n'importe quoi. Et certains font partie de la descendance de David. Et quatre siècles plus tard, parfois, quand un roi fait n'importe quoi de la génération de David, écoutez ce que Dieu dit, c'est incroyable. Deux rois huit. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, sur la promesse qui lui avait été donnée qu'une lampe sera toujours parmi ses fils. 1 Roi 15:3. Il se livra à un roi à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Ça ne parle pas de David là, ça parle d'un père mauvais. Un autre roi mauvais. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en le laissant subsister à Jérusalem. Ça, c'est le rêve qu'un papa doit avoir dans son cœur. Je ne regarde pas ce qui est en arrière, mais je me porte vers ce qui est en avant. Et je comprends qu'en tant que père, mes victoires auront un impact non seulement dans l'éternité, mais pour les générations à venir. Afin que même si un de mes fils ou arrière-arrière petit-fils fait n'importe quoi, Dieu est capable de dire, mais à cause de ton grand-père, à cause de ton arrière-grand-père, à cause de celui qui se tenait à la brèche dans toute sa vie pour moi, je lui ferai rien. C'est la grâce de Dieu. L'impact que peut avoir un père est phénoménal. Dieu nous appelle, nous ses enfants, à être des pères selon son cœur. Et je me suis adressé ce matin aux pères qui sont dans ce lieu. Pour vous dire que quelles que soient les erreurs que vous avez commises, juste demandez pardon à Jésus et c'est effacé. Arrêtez de regarder à ce qui est en arrière, mais regardez à ce qui est devant. Comprenez que vous n'êtes pas seul. Que Dieu le Père est avec nous, il vit en nous par son Saint-Esprit. Comprenez qu'en tant que Père, nous devons être l'extension de l'œuvre de Dieu dans nos familles. Et comprenons qu'en tant que Père, on doit transmettre l'identité de Dieu et laisser un héritage spirituel fort qui a un impact éternel, mais un impact intergénérationnel aussi. Les bâtiments vont se perdre. Les finances vont se perdre. Mais l'impact spirituel que tu peux avoir pour ta famille, c'est éternel. Alors j'aimerais ce matin demander aux papas qui sont dans ce lieu, si le message là vous a parlé vraiment, que vous êtes père, père ou grand-père, vous avez été père, vous êtes toujours un père, ce message a fait écho dans votre cœur. Je vous encourage à ne pas regarder à vos erreurs. Pas regarder vos dérapages. Adam s'empêchait à déraper. À combien plus forte raison nous. L'apôtre Paul a tué des chrétiens. Comprends que ce matin, Dieu veut engager son église à se lever, non pas comme étant juste une épouse, mais comme pour que l'église représente l'extension du Père pour sa nation. Et donc, il y a quelques mois de cela, on avait regardé le film Courageous avec certains pères qui étaient là. Quels sont les papas qui étaient là? Merci. Vous pouvez baisser la main. Et le pasteur Bruno a eu à cœur à ce moment-là de... Père, regardez ce film si vous ne l'avez pas vu, il est extraordinaire. Le pasteur Bruno avait demandé à tous les pères de se lever pour ceux qui désirent s'engager à devenir un père selon le cœur de Dieu. Malgré nos erreurs, malgré nos manquements, franchement, j'ai fait plein d'erreurs. Mais Dieu est bon. Et malgré que je commets encore des erreurs aujourd'hui, je me confie en lui. Et je ne veux pas m'interposer entre Dieu et mes enfants. Mais je veux être l'extension, refléter son cœur. Et je crois que beaucoup de papas ont ce désir dans ce lieu ce matin. Et comme le pasteur Bruno avait dit au papa la fois dernière, on va écrire une petite résolution symbolique qui engage les papas à devenir un cœur selon, devenir un père selon le cœur de Dieu. Et ce matin, on a réécrit, on a traduit donc la résolution que lit cet homme dans le film. On n'a pas fait une nous-mêmes, on a juste traduite. Et on va lire pour vous là ce qui a été dit, ce qui a été dit, écrit. Mais comprenez, c'est pas uniquement ce qui est écrit qui compte, c'est l'esprit derrière. C'est ça qui compte. Donc ce matin, je demande à tous les papas, la parole de Dieu a parlé à vos cœurs. Ne vous sentez pas condamnés, mais vous voulez être un père comme le cœur de Dieu. Vous comprenez que Jésus est avec vous, vous n'êtes pas seul. Et vous désirez vous lever, vous engager pour changer par sa grâce et offrir un héritage intergénérationnel à vos enfants. Alors ce matin, si tu es concerné en tant que papa, lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Merci pour les hommes courageux que vous êtes. Parce qu'on ne naît pas papa, on le devient. C'est un apprentissage, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand on est enfant, on ne comprend pas par quoi les parents passent. Papa signe un chèque. Papa doit travailler dur pour ça, maman pareil. Je remercie tous les papas qui se sont levés et on va faire quelque chose qui a une symbolique spirituelle forte. Je demandais aux papas qui se sont levés, on va vous distribuer, si vous le voulez, ce petit formulaire. Est-ce qu'on peut distribuer dès maintenant? Si vous ne voulez pas, vous ne le prenez pas. Mais si vous le voulez, prenez-le. Et on va le lire ensemble pour terminer la célébration. Qu'on puisse distribuer le petit formulaire qui est issu de ce film et qui parle, si vous voulez, de comment être un père selon le cœur de Dieu, comment prendre soin de sa famille, de ses enfants, de sa femme. On a abordé ça d'une façon différente ce matin, mais l'esprit est le même. Et ensuite, vous avez une petite signature. Je vous encourage à signer, à trouver à prendre votre femme à témoin, un ami à témoin, et dire que ce soir, comme le pasteur Bruno avait fait il y a quelques mois de ça, dire, on va vous donner un petit fascicule qui a une symbolique spirituelle forte, une morale forte. S'engager à être un papa selon le cœur de Dieu pour avoir un impact éternel. Moi, je rêve que Dieu se souvienne de nous en disant, mais à cause de cette église, à cause de ces hommes-là, à cause de cette équipe, à cause de ces pères, je préserverai la nation. C'est possible. C'est possible. Donc on va le lire à voix haute ensemble. Et ça va être comme une prière, d'accord? Demandez si on peut mettre cette magnifique musique, s'il te plaît. Et je demandais à tous les papas de le lire à voix haute. Prenez cet engagement comme un soldat pour votre famille. Vous êtes prêts? Tout le monde dit la résolution que je fais. Ensemble, je m'engage solennellement devant Dieu à prendre l'entière responsabilité de moi-même, de ma femme, de mes enfants. Je les aimerai, les protégerai, les servirai et les enseignerai la parole de Dieu en tant que chef spirituel de ma maison. Je serai fidèle à ma femme pour l'aimer et l'honorer. Et je serai prêt à me sacrifier pour elle, comme Jésus l'a fait pour moi. Je bénirai mes enfants et je leur apprendrai à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Je les formerai à honorer l'autorité, à vivre de manière responsable. Je m'opposerai au mal, rechercherai la justice et j'aimerai la miséricorde. Je prierai pour les autres et je le traiterai avec bonté, respect et compassion. Je travaillerai avec diligence pour pourvoir aux besoins de ma famille. Je pardonnerai à ceux qui m'ont offensé et me réconcilierai avec ceux que j'ai offensés. J'apprendrai de mes erreurs et me repentirai de mes péchés. Je marcherai avec intégrité, tel un homme responsable devant Dieu. Je chercherai à honorer Dieu, à être fidèle à son Église. J'obéirai à sa parole et ferai sa volonté. Je travaillerai courageusement avec la force que Dieu me donne pour tenir cet engagement pour le reste de ma vie et pour sa gloire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 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 Alléluia.